carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard-Flavigny.
Avec Anne Geoffroy, historienne et rédacteur en chef de la revue culturelle Signature, nous partons pour l'île de Malte, en plein cœur de la Méditerranée. Cette république, ancienne colonie britannique indépendante depuis 1964, est membre de l'Union européenne depuis 2004 et entrée dans la zone euro depuis 2008. Auparavant, Malte, qui reçut les Phéniciens, puis les Grecs et les Romains, les Byzantins, puis les Arabes et les Normands de Sicile, fut donnée en pleine propriété aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à la suite d'un traité signé en 1530 entre eux et l'empereur Charles Quint. Je vous raconterai bien l'histoire de cette congrégation religieuse et militaire fondée au XIIe siècle à Jérusalem, mais je préfère me permettre de vous reporter à de précédentes émissions qui vous la rappelleront. Pour l'heure, sachez que les hospitaliers que l'on appellera désormais les Chevaliers de Malte gagnèrent en puissance dans toute la chrétienté. La position de l'île, en fait un archipel, et ce qu'ils en firent a fortement contribué à cette renommée. Grâce aux chevaliers, Malte est à la fois un musée à ciel ouvert de l'architecture militaire et un véritable conservatoire de l'art baroque. Les grands maîtres, princes et souverains, à l'instar des autres souverains de l'Europe, eurent à cœur de s'entourer d'artistes afin de montrer leur gloire, du moins celle de Dieu. Et parmi ces artistes, il en est qui ont marqué leur passage. Mais avant d'aller plus loin, retrouvons-nous dans le Fort Saint-Ange qui domine le grand port, sur lequel flottent deux pavillons, celui de la République de Malte et celui de l'Ordre souverain de Malte. Le fort, aujourd'hui restauré, a été rétrocédé par un bail emphytéotique avec privilège d'extérritorialité à l'Ordre depuis 1998. Il réside depuis un chevalier résident, un religieux, Fra John Chrétien, qui nous conduit dans un ancien poste d'observation menant à un petit balcon niché dans la muraille du fort. L'arrivée par la mer est un spectacle inoubliable. On rapporte que c'est dans cet endroit même où le grand maître Lavalette surveillait les Ottomans installés durant le grand siège de 1565 sur le plateau de Chebara, où sera bâtie la ville qui portera son nom et qui deviendra la capitale de l'île. La mer est calme, bleue, lumineuse. L'atmosphère est chaude, un peu poisseuse, tempérée par le vent venu du large. Puis, nous voyons surgir un immeuble flottant qui se donne des airs de paquebot. Il avance lentement vers les remparts, comme pour les transpercer, et pénètre dans le grand port. Fermons les yeux un instant et imaginons que nous sommes sur le port de Naples, tout au début du XVIIe siècle. Un personnage dont on ne peut oublier le visage tellement il est empreint d'une force dont on ne sait s'il est malfaisante ou apaisante, embarque à bord d'une galère de Malte. Elle est reconnaissable car peinte aux couleurs de la religion, comme on désignait ainsi l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, montrant une alternance de longues bandes blanches avec des préceintes vermillons. La traversée est agitée, un vent contraire a pris de travers le bateau dans le canal étroit qui sépare les deux îles presque voisines, la Sicile et Malte. Et soudain, au bout de 9 jours, dans la lumière matinale, nous voyons surgir une masse dorée. Les hauts remparts de la Valette se dressent devant nous. Tout autour des bâtiments, gros et ventrus pour le transport de marchandises, légers et filets pour la course, hauts et redoutables pour le combat, et des barques locales comme des chébecs. Cette flotte, dans un grouillement de voiles, semble se disputer l'entrée de la passe devant le fort Saint-Elme. Notre passager regarde tous ses yeux comme nous le faisons, mais lui, avec davantage d'acuité, il est peintre, célèbre et fuyard. Il se nomme, nous le savons déjà, puisque cette émission lui est consacrée, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Rien n'aurait pu laisser deviner que ce personnage âgé de 34 ans se rende sur cette île fortifiée, poste avancé de la chrétienté face au monde musulman, afin de recevoir la croix de chevalier de Saint-Jean de Jérusalem. Avant de suivre les traces du Caravage à Malte, revenons en arrière. Anne Jouffroy, vous vous êtes penchée sur la carrière de cet artiste qui a révolutionné la manière de peindre. Dites-nous quel était-il, d'où venait-il et surtout quelles furent ses aventures avant de poser le pied sur l'île de Malte.
Pour commencer, sachons que Michelangelo Merisi est bien né à Milan le 30 septembre 1571 et non à Caravaggio 3 ans plus tard, comme on l'a beaucoup lu. Des incertitudes sur les lieux et les dates du Caravage ont contribué en effet, avant même sa mort en 1610, ça c'est une date qu'on connaît bien, à forger sa légende de peintre maudit et génial, au comportement violent, surtout imprévisible. Ces polémiques et ces spéculations ne se sont arrêtées qu'en 2007, grâce à la passion fouineuse d'un retraité. Merci Monsieur Vittori Pirami, n'hésitons pas à citer son nom pour lui rendre hommage. Donc notre heureux retraité consacre ses journées à accumuler des documents concernant les peintres italiens et flamands actifs à Milan au XVIIe. Alors évidemment, il retourne en arrière et il s'occupe des peintres qui seraient nés dans la seconde partie du XVIe. Il consulte les registres de la paroisse de Santo Stefano in Brolo, que l'on appelle aussi Santo Stefano Maggiore, pour les années 1547-1587. Et là, il découvre l'acte de baptême de Michelangelo Merisi en date du 30 septembre 1571. On n'avait pas trouvé auparavant cet acte de baptême tant convoité, pour la raison toute simple qu'on le cherchait ailleurs, dans la paroisse voisine, celle de Santa Maria alla Passarella, où ses parents habitaient. Alors, vous imaginez bien que depuis 2007, polémiques et spéculations sont reparties. Pourquoi donc les parents de Michelangelo l'ont-ils fait baptiser à Santo Stefano in Brolo ? Question sans réponse pour l'instant. Caravaggio est la petite ville lombarde d'où sont originaires les Merisi. Au début de l'année 1577, tous les Merisi s'y réfugient de nouveau pour fuir la peste, qui les rattrapera vraisemblablement. Le surnom lui-même du Caravaggio, Caravage en français, ressemble à un talisman, une sorte de porte-bonheur tout au long de sa vie. En effet, Merisi trouve protection et refuge, et Dieu sait s'il va en avoir souvent besoin, auprès des membres de la famille de la marquise de Caravaggio, veuve de Francesco Sforza et née Colonna. L'autre cadeau de sa petite ville natale, c'est l'héritage de l'école lombarde, une belle école de peinture. Gérard Julien Salvi, le dernier biographe de Merisi, écrit, je le cite, il ne cesse de se nourrir de la peinture lombarde du XVIe, née et élaborée sous des ciels souvent lumineux, mais riches en pluie et aux couleurs émaillées. Ainsi, tout en affirmant une volonté tenace de renouveau et de réinvention, Michelangelo a toujours gardé son œil lombard. L'œil lombard s'est gardé dans ses souvenirs, perspectives, raccourcis, cadrages serrés, des peintures de nuit et de feu typiques de cette région, disait Vasari, et aussi des personnages rustiques. Et peut-être est-ce un détail, mais il a son importance, une table souvent au premier plan de la toile, pour donner de la profondeur au tableau. Des 6 années que Michelangelo passe à Caravaggio avant de regagner Milan vers 1583, on sait peu de choses. Sinon que c'est pour ça que je parlais du fait que la peste a dû rattraper la famille, et sinon que dès octobre 1577, il perd son père et son grand-père paternel, de la peste sans doute. Toute la famille alors s'installe chez les grands-parents maternels à Caravaggio, parce que le père et la mère de Merisi étaient originaires de Caravaggio. L'origine de la vocation du jeune Merisi est difficile à appréhender. À Caravaggio, l'activité est essentiellement tourné vers l'agriculture, la petite industrie, et puis une certaine tradition artistique qui est évidente. Mais toutes les villes d'Italie du Nord de cette époque avaient ce genre de caractéristiques. Peut-être là, peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, grâce à Polidoro Caldara. Au XVIe siècle, un autre enfant du pays avait connu son heure de gloire et avait sans doute laissé une sorte de parfum artistique inoubliable dans la petite cité, même s'il l'avait quitté à 18 ans pour partir à Rome. Polidoro Caldara, dit aussi Polidoro da Caravaggio, donc vous voyez, il est bien signé, est né en 1500. Il fut un des prestigieux collaborateurs de Raphaël aux loges vaticanes. C'était un grand fresquiste. Il mourut en 1543 à Messine, trop tôt pour que le petit Michelangelo le rencontre. Mais son influence a peut-être, de près ou de loin, contribué à sa vocation. Les années 1583-1584 marquent le début de la vie active du Caravage et rappelons-nous qu'il a alors seulement 12 ans et demi, 13 ans. Il part pour Milan chez le peintre Simone Peterzano avec la signature d'un contrat d'apprentissage pour une durée de 4 ans. C'était généralement 4, 5 ou 6 ans, mais Peterzano avait constaté qu'il devait être très, très, très doué, cet enfant-là, et il pensait que 4 ans suffisaient. Et qui était Peterzano ? Peterzano, c'est un peintre très apprécié. Il est né à Bergame vers 1540 et il meurt à Milan en 1596. On considère que c'est l'un des meilleurs représentants du maniérisme lombard tardif, un peu chaotique, mais à l'époque où Michelangelo entre dans son atelier, Peterzano vient d'adopter un style plus dépouillé, plus austère, et puis il est très réputé pour la qualité de ses dessins. Michelangelo se perfectionne d'abord dans l'art du dessin, où il excellait. On sait que le Caravage peindra ses toiles futures directement sans les dessiner, mais c'est justement son grand génie du dessin qui lui permet d'aller droit au but, sans préparation. Chez Peterzano, il apprend bien sûr les techniques des pigments et tout ce qu'il faut savoir pour un peintre, mais aussi le maniement des modèles en bois, en cire ou en grès, afin d'ordonner les compositions et d'étudier la lumière et les ombres. C'est une technique de l'école vénitienne que Peterzano avait rapportée de son apprentissage à lui, dans l'atelier du Titien. Donc il y a un petit ajout de l'école vénitienne pour notre Lombard. En 1588, comme prévu, Merisi quitte l'atelier de Peterzano. Il retourne à Caravaggio, vers sa mère, mais elle meurt en 1590. Il faut savoir que la famille de Michelangelo a été très touchée par beaucoup de deuil. 2 ans et demi plus tard, en 1592, il s'installe à Rome et il ne reviendra plus en Lombardie. Sa réputation de peintre bandit, ange et démon se répand dans tous les milieux, mais la haute noblesse ecclésiastique est touchée par ce personnage pétri de sentiments religieux. Merisi a une foi profonde et sincère, et il faut insister sur cet élément-là, parce qu'on ne peut comprendre sa peinture qu'en pensant au fait qu'il était avant tout un croyant. Et l'élite ecclésiale qui a compris tout ça le protège autant que possible. Et bien sûr qu'il aura besoin de protecteurs. Elle avait compris, cette élite, que ce jeune provincial, inconnu jusqu'à maintenant, allait, grâce à un étonnant mélange entre le sacré et le profane, offrir à la chrétienté catholique des chefs-d'œuvre où se mêlent sainteté, péché. Et lui, il en fait des péchés. Des brouilles, des chahuts, des rixes, des plaintes pour diffamation, des nuits en prison. Tout ça, ça se succède. Et après, ce sont des périodes créatives et des nuits fébriles devant la toile. Mais il fait un véritable triomphe à Rome. Si l'on contemple la Madone des pèlerins pour illustrer tout ce qu'on vient d'évoquer, toujours actuellement dans l'église Saint-Augustin à Rome, deux éléments picturaux avaient de quoi surprendre les contemporains et enthousiasmer les plus érudits, les plus intelligents d'entre eux. La Vierge est représentée comme une simple paysanne devant un portail, touchant presque des pèlerins dépenaillés et aux pieds sales, ce sont les fameux pieds sales. En fait, et je cite toujours Gérard Julien Salvi, le sujet central exploré par le Caravage au long de sa brève carrière, c'est la métamorphose de la vie quotidienne en une dimension sacrée. Quotidienneté qui, à l'opposé des natures mortes bientôt abandonnées, demeurera omniprésente jusqu'au dernier temps de cette aventure esthétique qui prit la forme d'une révolution permanente. Salvi donne ainsi la clé permettant de le comprendre. Et Salvi continue. Parvenu à ce même degré de perfection que ce monstre d'intelligence et de naturel, sans autre précepte, doctrine, étude que la seule puissance de son génie. Comme l'avait déjà souligné Vincente Carducco dans son Dialogos de la Pintura, publié en 1633, le Caravage, par des raccourcis foudroyants, allait à l'essentiel et rendait compréhensible aux plus humbles, dans leur quotidienneté la plus prosaïque, la dimension irréversible et inéluctablement préalable du tragique événement. Disons que nous savons maintenant que Caravage a surtout servi son Église et sa foi, ce qui était bien naturel. Remarquons toutefois que le contexte historique est toujours derrière la création artistique, puisque le Caravage vivant à l'époque de la Contre-Réforme, sa culture ne pouvait qu'être celle de la Contre-Réforme. Mais les événements se précipitent. Nous sommes le 28 mai 1606. Le Caravage fait un acte irréparable. Il tue en duel Ranuccio Tommasoni, dont le frère Gianfrancesco Tommasoni venait de le blesser sur un jeu de paume. Une colère qui va coûter très cher. Le 16 juillet, il est condamné à mort par contumace et il s'enfuit de Rome. Il part à Pagliano, où il trouve asile chez le duc Muzio Sforza, Colonna, toujours la même famille. On peut voir à Rome actuellement encore, notamment à la Galerie Borghese, au Capitole, à la Galerie Pamphili, au Palais Barberini, à l'église Saint-Louis des Français, surtout bien sûr, et à Sainte-Marie, en toutes ces œuvres de cette époque-là. L'automne arrive. Nous sommes toujours en 1606. Il s'installe à Naples, où l'on peut voir ses œuvres, notamment encore à la chapelle du Piemonte della Misericordia et à Capodimonte. Alors, nous le suivons. En juillet 1607, il s'embarque pour Malte sur une galère de l'escadre commandée par Fabrizio Sforza, bien sûr. Alors, puisque vous avez accompagné le Caravage à Malte, Bertrand Gallimard-Flavigny, je vous laisse la parole dans quelques instants, après l'intervention de Marc Fumaroli. Mais auparavant, laissez-moi anticiper en vous racontant le dernier épisode de sa vie. Après son évasion, Mérisy s'installe à Messine, son évasion de Malte, s'installe à Messine, puis en 1608 à Palerme, et là, il regagne Naples fin septembre, début octobre 1608. Fin octobre, il est attaqué par un groupe d'hommes. Ses blessures semblent l'affaiblir beaucoup et peut-être même contribueront-elles à le faire mourir. Enfin, nous sommes fin juin, début juillet 1610. Mérisy, emportant avec lui quelques tableaux et des effets personnels, quitte Naples et embarque sur une felouque dans l'intention de gagner Rome, où le bruit circulerait que la grâce pontificale était sur le point de lui être accordée. Il en rêvait. Quelques jours plus tard, il débarque à Palo, où il est brièvement emprisonné pour avoir participé à une rixe, une de plus, me direz-vous. Et le 16 juillet 1610, victime de la malaria, de la dysenterie, des blessures mal cicatrisées et depuis son agression à Naples, comment savoir, le Caravage meurt à Portercole, qui est une petite localité sur le littoral toscan. Alors, les circonstances exactes de son décès restent inconnues. Tout le monde ne peut que constater il a eu une mort conforme à sa vie, opaque et tumultueuse, ce pauvre Merisi. Il y a une légende palzolinienne qu'il faut contrecarrer et qui voulait que Merisi meure seul sur une plage de sable noir. Mais non, 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 il n'est pas du tout mort seul sur une plage de sable noir. Il est mort aux hospices de Porto Ercole et il avait 39 ans. Nous sommes, rappelez-vous, le 18 juillet 1610 et les 28 et 31 juillet 1610, le Vatican annonce la notification de remise de peine.
Pour apporter un nouvel éclairage à la peinture du Caravage, nous recevons Marc Fiumaroli, professeur honoraire au Collège de France et membre de l'Académie française. Je vous laisse la parole, Anne Jouffroy.
Dans vos livres sur les images, vous comparez la peinture à la poésie muette. Pour bien éclairer votre pensée, je vais citer tout entier l'adage qui vous a tant inspiré et que je trouve d'ailleurs superbe. La poésie est une peinture parlante. La peinture est une poésie muette. Vous avez intitulé un de vos livres « L'école du silence, le sentiment des images au XVIIe ». Vous expliquiez alors que vous n'aviez pas résisté à emprunter la formule « L'école du silence » à Paul Claudel, tant elle cristallisait votre propos. En 2008 encore, dans votre dernière parution « Paris, New York et retour, voyage dans les arts et les images », vous nous incitez à nous plonger à la recherche du sentiment des images. Mais attention, vous prévenez tout de suite le lecteur. Écartons le flux de ces images actuelles sans arrière-fond, c'est ça le maître mot, qui s'interpose entre l'œil et les chefs-d'œuvre. Alors, monsieur le professeur, fuyons les images sans âme. Parlez-nous du Caravage, cet ombrageux Caravage. Faites-nous voir et comprendre son éloquence muette et sa peinture. Alors, tout d'abord, question un peu générale, mais absolument incontournable, quelle place tient le Caravage à la fois dans la société de son temps et dans l'histoire de la peinture ?
Vaste problème et vaste question. Mais vous avez prononcé le mot d'éloquence muette, et je partirai là-dessus. La peinture à Rome, au XVIe siècle, la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe, quand Caravage arrive dans la capitale catholique, c'est avant tout, du point de vue de l'Église bien sûr, il y a déjà une peinture profane pour collectionneurs et pour amateurs, mais quand même le principal mécène
c'est l'Église.
La peinture, c'est l'Église, catholique. Parce qu'elle compte sur les images, à la fois pour soutenir, en somme, la piété des fidèles dans l'Église, au moment, pendant la messe, avant la messe, et surtout en vue du sacrement. Et d'autre part, elle compte aussi sur les images pour enseigner à ceux qui ne lisent pas, aux illettrés, ou même à ceux qui lisent et qui ont besoin d'une sorte de secours visuel pour se progresser dans la vie spirituelle, de leur offrir en quelque sorte des images qui leur parlent, mais qui leur parlent au fond du cœur, si j'ose dire, qui ne leur parlent pas comme peut parler un prédicateur ou comme peut parler un confesseur. Alors la peinture est effectivement une éloquence muette aux yeux de l'Église, et le problème se pose évidemment de savoir quel va être le style de cette éloquence. Sera-t-elle violente, véhémente, sera-t-elle flatteuse, émouvante, sera-t-elle rocailleuse ou sera-t-elle douce ? Il y a toute une problématique esthétique qui est liée à la notion d'éloquence, tant verbale que picturale, ou même sculpturale, ou même architecturale. Et il se trouve que, contrairement à l'image que l'on donne rétrospectivement de l'Église catholique, elle n'est jamais un tout, elle n'est jamais un bloc, elle est toujours en dialogue avec elle-même. Il y a toujours des querelles internes qui montrent que la vie de l'esprit n'est pas une vie de sommeil. Et là, après le Concile de Trente, alors que l'Église a refait en quelque sorte son unité, apparaissent effectivement des grandes questions durement contestées par des parties internes à l'Église, la querelle de la grâce essentiellement. Et alors cette querelle, on peut en dire deux mots, parce qu'elle a des retentissements esthétiques, justement, et elle va avoir des conséquences considérables pour l'histoire de la peinture catholique. Parce que la question est de savoir si, contrairement à ce que l'humanisme avait laissé entendre, la nature humaine n'est pas complètement abîmée par le péché, par la faute originelle, et qu'elle est capable, par ses propres forces, de créer une société, des cités, des arts, des sciences, une politique, une économie. Ou bien, est-ce qu'elle est à ce point
coupable.
Détruite ? Non, pas coupable, mais abîmée, que tout ce qui sort d'elle est finalement redoutable et peut-être même coupable, et qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse sauver l'âme humaine, c'est la grâce divine. Et une grâce qu'on ne peut pas préparer, que les œuvres ni les mérites acquis ne peuvent pas annoncer. Alors c'est une querelle terrible, c'est une querelle fondamentale. Alors il y a là deux familles qui s'opposent, et il est bien certain que dans la première hypothèse, celle d'une nature humaine qui reste encore assez vive après la faute d'Adam et Ève, pour pouvoir créer un monde qui ne soit pas un monde infernal, mais qui soit un monde habitable, eh bien il est évident qu'il y a une petite notion, il y a une notion d'optimisme, il y a une notion de joie, il y a une notion de prédominance, en quelque sorte, du lumineux sur l'obscur. Alors que dans l'autre hypothèse, qui est adoptée par de très nombreuses familles spirituelles catholiques, et qui va être adoptée avec une dureté particulière au centre du XVIIe siècle par les jansénistes français, il est évident que le monde créé par l'homme, le monde politique, économique, social, est vu dans une couleur extraordinairement néfaste et négative. Et négative, peut-être pas pessimiste, parce que, en fin de compte, il sera toujours aussi pire qu'il l'a été. Il n'y a pas d'évolution. Mais surtout, il est dans l'attente, ou en tout cas, il ne peut espérer se sauver personnellement que si la grâce divine se jette sur lui, exactement comme Jésus l'a fait pour Pascal pendant sa fameuse nuit illuminée qu'il a rassuré en quelque sorte sur son. Alors là, effectivement, la part de l'ombre, la part de la nuit, la part de l'obscurité, la part de du poids charnel des êtres et des choses, l'emporte sur la lumière, l'emporte sur la couleur, l'emporte sur ce que la nature peut avoir de joyeux lorsqu'elle se sait bonne, lorsqu'elle se sait féconde. Voyez. Alors il me semble que la grande bataille qui a lieu à Rome, à l'intérieur même de la ville, dans les 20 dernières années du 16e, et qui se poursuit dans les 10 premières années, et qui oppose cette personnalité singulière, originale, venue, on ne sait d'où, du Caravage, et qui immédiatement exerce une véritable fascination pour les cardinaux les plus brillants et les plus intelligents de la cour pontificale. Et puis, de l'autre côté, venus de Bologne, des peintres qui, au contraire, se situeraient plutôt dans la tradition à la fois théologique et rhétorique d'une abondance généreuse et d'une priorité à la lumière, c'est-à-dire les Carrache et leur académie et leurs élèves. Alors, il y a là deux familles qui sont tout aussi catholiques l'une que l'autre, mais qui ont pris un parti différent vis-à-vis de la question mystérieuse, insoluble, que d'ailleurs la papauté a fait tout ce qu'elle a pu pour étouffer, pour qu'on n'en parle pas, pour qu'on garde le silence. Mais ce n'était pas possible. La discussion interrompue pendant quelques années au début du XVIIe siècle va reprendre de plus belle avec les querelles entre jansénistes et jésuites. Donc on a là, vraiment, on est au cœur d'un des drames du catholicisme moderne, et Caravage prend avec ses moyens, évidemment, de peintre, avec ses moyens d'artiste, il n'est pas un théologien, il n'est pas un moraliste, mais en tant que peintre, si vous voulez, il touche au cœur d'un choix qui me paraît très important.
Ce qui est étonnant, c'est que l'Académie des Carraches, ce sont des gens cultivés, tandis que Michelangelo Merisi ne semble pas être un personnage cultivé, bien qu'il ait été éduqué, et tout d'un coup, tout est spontané. Tout était spontané. Il est arrivé là, tout d'un coup.
Mais non. Est-il mais non. vraiment arrivé là? C'est la question.
Oui,
aussi.
Alors d'abord, il est difficile de savoir ce que c'est que la culture pour un peintre. Il est manifeste que d'abord, il avait beaucoup vu d'excellentes peintures. Il avait certains, comme il était des marches, et il a vu Léonard. Oui. Et Léonard, mon Dieu, a beaucoup médité sur les rapports entre lumière et obscurité. Et il a inventé le clair-obscur. Il venait d'une région où le problème posé en termes visuels, non pas en oui. termes conceptuels, était très vivant. Donc, il n'était pas nécessaire pour lui d'avoir lu Sénèque, d'avoir lu Tacite, d'avoir lu les Pères de l'Église, où effectivement, cette question esthétique du rapport entre la brièveté quasi oraculaire et puis l'ampleur généreuse de la période cicéronienne se posait, mais à mon avis, il était un si grand peintre qu'il n'avait pas besoin de faire ce détour. Les Carraches n'étaient pas si cultivés que ça. Vous savez le mot du plus grand, enfin, du grand Hannibal, dont le frère Augustin était extrêmement cultivé, dans le sens lettré d'ailleurs, plutôt que théologique, et à son frère, donc, qui lui disait qu'il aurait pu tout de même de temps en temps ouvrir un livre, il lui répondait « Mais je ne suis pas un lettré, je suis un peintre, et le peintre n'a pas besoin de lettres. » Donc, vous voyez, le monde visuel et la technique picturale impliquaient des questions d'ordre moral et théologique fondamental, mais elles ne passaient pas par les mêmes détours que un théologien, un ecclésiastique ou même un homme cultivé contemporain devait parcourir. Il y a une voie brève, si vous voulez, de l'artiste qui va directement au cœur des choses, alors que le lettré doit faire de longs chemins, doit passer par l'érudition. Caravage voilà. avait une expérience de la peinture certainement exceptionnelle. Il était peut-être érudit en tant que peintre, mais il n'était pas érudit au sens où pouvait l'être un cardinal ou un régent de collège jésuite.
Oui, parce qu'il avait des sensibilités intuitives, des fulgurances. Mais...
Je pense qu'il était aussi un grand, très grand croyant. C'était certainement quelqu'un qui vivait littéralement les questions que l'Église de l'époque se posait et qui répondait à sa façon et qui voulait tout de même former le regard de ceux qui allaient goûter ces tableaux au même point de vue que celui auquel il était parvenu sur le monde, sur l'homme, sur les rapports entre l'homme et Dieu.
C'est-à-dire que, bien sûr que le Caravage est connu pour avoir un caractère un peu difficile et il était certainement déchiré entre ses antagonismes. Donc il avait très bien compris aussi à quel point c'était déchirant de pouvoir voir la position humaine, l'indignité humaine. Et je pense que ces tableaux représentent ce déchirement.
Oui, mais alors, c'est une interprétation psychologique. Moi, personnellement, je ne crois pas tellement à la psychologie. et quand on a affaire à un peintre de cette dimension, dans la même tradition, le seul qui puisse lui être comparé, c'est Velázquez, qui a atteint exactement au même degré. Ce sont des peintres sur lesquels on ne peut pas se prononcer du point de vue psychologique. Bon, certainement, Velázquez était un gentilhomme beaucoup plus...
Policé.
Beaucoup plus policé que l'était Caravage. On sait que Caravage n'a pas hésité à se bagarrer, oui. que ça lui a valu tout un drame à la fin, dans les dernières années de sa vie. Mais moi, je pense que l'important, c'est qu'il était avant tout peintre. Et en tant que peintre, au moins dans cette époque, qui était une époque encore très pénétrée de théologie, et dans une période où l'Église est dans une phase militante, si j'ose dire, pour écarter
Pour faire la croisade anti-protestante.
Oui, pour faire, peut-être, en tout cas pour contrecarrer l'avancée protestante, il est certain qu'il était avant tout un peintre et pas seulement un homme déchiré par ses contradictions intérieures.
Mais...
Le brave Hannibal Carrage dont nous parlions tout à l'heure, lui non plus, n'a pas eu une vie édifiante. Vous savez, c'était pas du tout un grand gentilhomme. Quand on voit ces merveilleux plafonds de l'art au Palais Farnèse, on a l'impression que tout est lumineux, magnifique, et c'est vrai d'ailleurs. Mais lui-même était un homme justement difficile, et puis animé d'un ressentiment profond contre ses patrons qui ne le payaient pas. Et ça n'était pas du tout un innocent, c'était pas Frangelico. Là, oui, vous avez un peintre. Mais là encore, chez Frangelico, la psychologie de Frangelico, elle nous échappe totalement. On ne veut rien dire.
Bien sûr. Mais pour le Caravage, c'est particulier. Sa psychologie est connue, ce n'est pas un mythe. Donc, on peut imaginer qu'un peintre implique son caractère.
On discute beaucoup de sa biographie. Bon, on la connaît beaucoup mieux aujourd'hui. On voit très bien que ça n'était pas Pasolini, ça n'était pas... Et pourtant, Dieu sait que d'après la guerre, une grande partie de la propagande qui a été faite pour le Caravage, qui est quand même un peintre qu'on ne connaissait pas avant la guerre, qu'on a connu à partir de 1947-1948, parce qu'un grand historien italien, Roberto Longhi, s'est épris de Caravage, et comme c'était en même temps un grand styliste, il a réussi à organiser une exposition, à faire une préface magnifique, et du coup, le Caravage a été lancé. Et dans tous les pays, on a commencé à écrire sur le Caravage et on en a fait une sorte de, je ne sais pas, de Rimbaud ou de Jean Genet de la peinture. Mais c'est une idée qui est complètement fausse. On n'a absolument aucune preuve de que ce soit dans ce sens qu'il faille chercher. Et ces tableaux, eux, sont incontestables. Et c'est quand même dans ces tableaux qu'il faut chercher, disons, le génie de cet homme sur lequel nous ne saurons jamais très bien... Nous sommes à Malte.
Parce que c'est bien. Alors, à Malte, il est resté très peu de temps, mais il a quand même peint trois chefs-d'œuvre, surtout la décollation, qui est l'un des plus grands tableaux qu'on puisse voir.
Et qui est effectivement un tableau où le drame de la lumière et de l'ombre se joue de façon tout à fait tragique. Enfin, le tableau est habité par une immense ombre, et seuls quelques rayons de lumière viennent éclairer l'horrible martyr de
Saint-Jean.
De Saint-Jean-Baptiste. Et cela donne, en fin de compte, ce n'est pas un tableau édifiant. Jamais Caravage n'est édifiant. Il ne veut pas vous dire, imitez cet admirable saint qui est en train de mourir, faites comme lui. Mais il attire tout d'un coup l'attention sur, d'abord, la cruauté humaine. La cruauté humaine, la brutalité humaine.
La brutalité, oui.
Et puis l'espèce d'abandon total, l'espèce de renoncement à se défendre, l'espèce d'humilité absolue du saint qui...
a tout accepté.
Qui donne, en fait, qui fait valoir, en quelque sorte, la brutalité humaine en ne lui résistant pas. Ce qui fait que c'est une admirable... leçon de christianisme, cette toile. C'est en même temps un très beau tableau, magnifique, dont les équilibres sont étranges, parce que, en fait, il est profondément déséquilibré. Mais ce déséquilibre le favorise, si j'ose dire, ça le rend plus intense.
Oui, mais ça, c'est le grand art de Caravage. Il fait des perspectives qui sont sentimentales et pas du tout géométriques. Donc, c'est pour ça qu'il est déséquilibré.
Ah non, il n'est pas du tout géomètre, ça, c'est
Et alors, de ce fait, il centre et l'âme passe.
La peinture, pour lui, c'est avant tout le drame humain. Le drame humain à la lumière de la grâce, ça, c'est certain. La géométrie, toute la problématique humaniste de la Renaissance, il la laisse de côté. Puis alors, il y a un autre aspect aussi qui est très intéressant chez lui, qui est vraiment une création inouïe, et qui va avoir une fécondité jusqu'au XIXe siècle dans la peinture. Il invente la nature morte. Il invente parce que formidable panier de fruits,
De la Brera. Avec quelques petites vers dans le fruit, parce que c'est une vanité quand même.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est un formidable paradoxe, parce que c'est à la fois l'extraordinaire beauté de ses fruits, oui. l'extraordinaire fécondité de la nature, l'extraordinaire valeur de ses nourritures oui. terrestres. Et puis en même temps, brutalement, nous nous rendons compte que elles sont éphémères, elles sont comme nous, elles appartiennent au même degré, elles appartiennent au même monde que la chair, et donc elles vont disparaître, et elles symbolisent pour nous notre condition à la fois pécheresse et mortelle.
C'est ce que nous retrouvons un petit peu dans le Saint Jérôme, puisque nous restons dans l'oratoire, oui. où le Saint Jérôme, qui est à la fois un portrait et une vanité, et également le Saint Jérôme lisant. Tant qu'il est vêtu, il n'y a pas de chapeau de cardinal. D'ailleurs, Saint Jérôme n'a jamais été cardinal, contrairement à ce qu'on laisse croire. Et on a malgré tout une toge rouge, donc qui frappe beaucoup. Il est en train de lire, et avec la vanité qui est à côté. Donc nous avons les deux aspects donc de l'intellectualisme, d'une certaine manière, puisque Saint Jérôme, c'est un Jérôme, et qui est en train de lire, et la vanité.
D'ailleurs, les autres représentations de Saint Jean-Baptiste par Caravage, c'est un thème qui l'a vraiment obsédé. Et d'autre part, c'est un thème chrétien extraordinairement important, parce que c'est le dernier des pères de l'Église. C'est le dernier des prophètes.
Qui...
Et c'est en même temps un proto-Christ.
Oui. C'est le frère aîné. Il
a un rapport avec le Christ en miroir, si vous voulez. Il est déjà le Christ. Et Caravage, à plusieurs reprises, l'a revêtu d'un extraordinaire manteau rouge sur des adolescents qui porte comme une espèce de robe de cardinal. Et là aussi, il y a ce sens extrêmement sénéchien, extrêmement paradoxal de la forme. Il oppose brutalement cette espèce de signe par excellence de la gloire qu'est la pourpre, ou de la grandeur humaine qu'est la pourpre, avec la fragilité de ce corps d'adolescent, et tout à l'heure de ce... En face, d'ailleurs, du Saint-Jérôme de la cathédrale de Malte, il a disposé Saint-Jean-Baptiste.
Alors, ce qui est étonnant, la succession des Saint-Jean-Baptiste, or Saint-Jean-Baptiste est le patron des chevaliers de Malte, des hospitaliers.
Oui, des hospitaliers.
Alors, le Saint-Jérôme avait été commandé pour la chapelle de la langue d'Italie. Donc, était placé ailleurs.
Donc, ça, c'est une disposition.
C'est une disposition qui est nouvelle parce que le tableau a été volé, il a été restauré et il a été placé, protégé. Mais au bout du compte, on a les deux l'un en face de l'autre, on se tourne et nous sommes fascinés par ces deux visions.
Oui, parce que finalement, ils se sont rejoints parce qu'ils s'appelaient l'un l'autre, en fin de compte. il y a un effet de correspondance profonde, à la fois symbolique et visuelle, dans les deux tableaux. Et puis, je dois dire que un autre thème qui a beaucoup retenu le Caravage, et on a découvert récemment à Dublin un tableau de lui qui était complètement perdu, ou même...
Il était mentionné, mais on ne savait même pas s'il avait existé.
Voilà, exactement. C'est le baiser de Judas. Et là, on a presque une espèce de concentré de la méthode de Caravage. C'est la nuit la plus profonde. Il y a la lumière de quelques torches. Et à la lumière de ces quelques torches, on voit luire les casques des soldats
oui,
qui enveloppent
cuirasses,
le Christ, quelques cuirasses. Et puis on voit le Christ quand même le mieux illuminé. Et puis cette face hypocrite de Judas qui s'approche de lui, c'est un des commentaires les plus saisissants des récits de la Passion par les évangélistes. Et là, on voit que Caravage était un... Je ne dis pas un mystique, mais enfin quelqu'un qui avait avec le Nouveau Testament un rapport extraordinairement intense. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a conquis la haute église de l'époque. On a senti que, à travers le Caravage, la peinture catholique pouvait toucher à la fois les savants et le peuple, et que c'était une option qu'il fallait absolument soutenir.
Bien, merci beaucoup, monsieur le professeur. Je crois que sur les traces du Caravage, en fait, peuvent nous emmener encore très très longtemps. Mais c'était déjà merveilleux de pouvoir défricher ce Caravage.
Merci.
On se perd toujours en conjoncture sur les raisons qui ont poussé le Caravage à se rendre à Malte. Car enfin, on voit mal cet artiste fantasque, incontrôlable, un peu voyou, devenir peintre de cour. La version la plus courante laisse entendre qu'il songeait que l'obtention de la croix de chevalier lui permettrait d'être protégé, sinon lavé, de la mort en duel de Ranuccio Tommasoni. Nous pensons en fait, avec Gérard-Julien Salvi, que le Caravage ne l'avait pas vraiment envisagé. Il semblerait qu'il y fût poussé par ses protecteurs, les Sforza Colonna. C'est d'ailleurs à bord de la galère commandée par Fabrizio Sforza, ancien grand prieur à Venise, que parvint le Caravage à Malte le 12 juillet 1607. D'autre part, parmi les membres de la Fondation pour Monte della Misericordia, il s'en trouvait qui était lié à l'ordre de Malte et au grand maître, Alof de Vignacourt. Citons encore le commandeur Ippolito Malaspina, qui avait connu l'artiste à Rome et recommanda sans doute le Caravage au dit grand maître. Celui-ci voyait d'un très bon œil l'arrivée du peintre dont la renommée était grande, il ne faut pas l'oublier. Il allait pouvoir s'attacher à un artiste à son service et l'associer à sa gloire. Que le Caravage ait vu là un moyen d'être protégé des fous des tribunaux romains, il était tout de même condamné à mort par contumace, et aussi d'acquérir un prestige nouveau grâce à la qualité de chevalier, tout en étant commanditaire du très riche ordre de Saint-Jean, doit entrer en ligne de compte. Il pourrait paraître surprenant qu'un homme accusé de meurtre et condamné puisse être ainsi admis dans l'ordre. Si le grand maître était souverain sur l'île, il était aussi chef d'un ordre religieux et par conséquent redevable de ses actions auprès du souverain pontife. Le grand maître, étant déterminé à conserver auprès de lui le Caravage, lui offrit en effet la croix de chevalier d'obédience magistrale, une distinction purement honorifique, car les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, pour être de justice, c'est-à-dire de droit, devaient en effet apporter la preuve que chacun de leurs 8 busailleux était en possession d'un principe de noblesse héréditaire, ce qui n'était pas le cas de Michelangelo Merisi. Nous savons que le grand maître Vignacourt envoya le 29 décembre 1607 une lettre de créance à l'ambassadeur de l'ordre à Rome, Fra Francesco Lomellini, afin de solliciter auprès du pape Paul V un bref pontifical l'autorisant de recevoir une, je cite, « personne de grand talent, personne par nous bien considérée et sans obligation de preuve ». Le grand maître évoque le cas juridique de la personne en question, mais se garde bien, sur le conseil du cardinal Scipione Borghese, de prononcer le nom du Caravage. Et le document d'autorisation de réception est daté du 15 février 1608, 3 semaines seulement après la demande. Michelangelo Merisi da Caravaggio fut armé et reçu dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à la mi-juillet 1608. Désormais, il ne pourrait quitter Malte sans le consentement du grand maître. En fait, Michelangelo demeura à Malte que quelques mois de juillet 1607 à décembre 1608, avec une interruption de 7 mois. La première année sur l'île fut sans doute meilleure qu'il l'avait pensé, assure Cade Siberas, l'auteur d'une monographie consacrée au Caravage à Malte. Pour commencer, il avait reçu de Fra Ippolito Malaspina la commande d'un portrait de Saint Jérôme destiné à la chapelle de la langue d'Italie dans l'église conventuelle des Chevaliers, l'église Saint-Jean. Cette toile est aujourd'hui exposée dans l'oratoire de l'ancienne église conventuelle devenue co-cathédrale de la Valette. On remarquera en bas à droite des armoiries qui sont celles des Malaspina. Ce Saint Jérôme a été volé le 29 décembre 1985, puis retrouvé et restauré. Afin de bien marquer le lieu où il était destiné, on a placé dans la chapelle de la langue d'Italie une copie. On a souvent souligné la ressemblance de Saint Jérôme avec le portrait du grand maître Vignacourt qui devait réaliser plus tard le Caravage. Et comme le souligne Catherine Puglisi, auteur d'une monographie sur le Caravage, cette, je cite, « analogie flatteuse entre le père de l'Église et le grand maître chef religieux et militaire ne pouvait que favoriser un accueil bienveillant de la part de ce dernier ». Et durant cette période donc de juillet à septembre 1607, le Caravage résida au palais Malaspina sur le bastion Salvatore à La Valette, qui se trouve dans la partie gauche de la ville et donne sur le port de Marsamchet, en face du fort de Noël. Après quoi, Le Caravage, il était libre, il était encore novice, regagna Naples où il acheva la Madone du Rosaire et la décoration d'une chapelle dans l'église Santa Anna di Lombardie. Il retourna à Malte en avril 1608 et commença le portrait du grand maître à l'œuvre de Vignacourt que nous pouvons voir au Louvre à Paris. Ce tableau parvint on ne sait comment à Paris au milieu du XVIIe siècle, dans l'hôtel de Roger du Plessis, duc de Liancourt, rue de Seine, avant d'entrer dans les collections de Louis XIV en 1670. Et donc, l'année de délai de résidence théorique écoulée, Michelangelo Merisi entra dans l'ordre le 14 juillet 1608. A-t-il résidé comme il aurait été naturel dans l'auberge de la Langue d'Italie ? Nous l'ignorons. Cette auberge existe toujours à La Valette, au début de Mercant Street, et abrite aujourd'hui le ministère du Tourisme et le très dynamique Malta Tourism Authority. Elle avait été auparavant, après le départ des Chevaliers en 1798, musée national, tribunal, puis la poste principale. Durant l'été 1608, Fra Michelangelo Merisi exécuta le portrait de Fra Antonio Martelli, ancien amiral de la flotte de l'ordre, charge, qu'il avait abandonné en 1606, en raison de son âge, pour devenir grand prieur de Messine. Ce dignitaire présenté de trois quarts est simplement vêtu d'un habit noir frappé au son de la croix blanche à huit pointes, sur une chemise blanche, mais sans le motto habituel. Une présentation novatrice qui donne à ce portrait un aspect inachevé. Ce tableau est conservé à Florence, au Palais Pitti, dans la Galerie Palatina. À la même époque, probablement entre l'achèvement du portrait du grand maître et le début de celui de Martelli, Alain de Vignacourt passa une nouvelle commande au jeune chevalier, représenter la décollation de Saint-Jean-Baptiste, qui devait être destinée à l'oratoire de l'église conventuelle Saint-Jean. Cette chapelle venait d'être achevée en 1605, était destinée à la formation des novices et aux réunions des chevaliers membres de la confrérie de la miséricorde, c'est-à-dire vouée au secours spirituel des condamnés à mort. Comme le rappelait Marc Fumaroli, le Caravage avait peint de nombreuses fois Saint-Jean-le-Baptiste, toujours drapé dans une toge en pourpre. Merisi savait-il déjà que ce saint était le patron de l'ordre ? Toujours est-il qu'il se mit à la tâche et produisit l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Il suffit de pénétrer dans l'oratoire de la co-cathédrale Saint-Jean à La Valette pour être saisi par la force de ce tableau. Nous savons qu'il est exécuté en concertation avec le grand maître. La taille d'abord, 3,60 m de hauteur par 5,20 m de largeur, car il était destiné à orner l'oratoire et être placé dans un cadre spécialement fabriqué pour lui. Permettez-moi un détail sur le placement du tableau. Il était placé derrière l'autel, dont le dessus était naturellement chargé d'un tabernacle, de flambeaux et autres meubles liturgiques, et dont la hauteur masquait le bas de la scène peinte. Lorsque l'on rapporta le tableau de Florence après sa restauration en 1990, on supprima le haut d'autel, on ôta les ustensiles, laissant ainsi le champ complet, la vision de cette œuvre monumentale. Celle-là fut l'objet d'un véritable culte de la part de nombreux artistes qui se rendirent à Malte afin de l'y voir et bénéficia d'une grande renommée parmi les voyageurs étrangers. Roberto Longhi, celui qui permit de redécouvrir Caravage grâce à sa biographie parue en 1952, devait écrire à son propos qu'elle constitue, je cite, « une grande idée de la tragédie, plus inexorable qu'à jamais, car sans le refort de lumière contrastée, et même dans le cadre d'un après-midi clair et calme, pleine d'un désespoir à perpétuité, dans la cour du bagne avec les forçats qui, derrière la grille, guettent l'exécution près du couloir par lequel on pourrait encore tenter de fuir ». Cette commande, venue directement du grand maître, était en fait un moyen de régler implicitement le droit de passage dont devaient s'acquitter tous les novices avant d'être reçus dans l'ordre. Ceci en souvenir de l'époque où les futurs chevaliers empruntaient pour gagner Jérusalem à bateau et réglaient leurs billets, si l'on peut dire, pour leur traversée, autrement dit leur passage. Le tableau fut en fait un paiement en nature de ce droit. Le grand maître, particulièrement satisfait, et il pouvait être satisfait de cette commande, offrit au peintre un collier d'or et deux esclaves. Ce geste, notamment ce don des esclaves, montre bien que le Caravage était déjà installé à Malte. Cela signifie qu'il avait un train de maison, si modeste était-il, et qu'il avait la capacité d'entretenir ses deux esclaves, et qu'eux-mêmes devaient assurer un service qui existait. Alors, où logeait donc le Caravage à l'époque? Et nous l'ignorons. Mais en descendant dans les bas quartiers les plus populaires de la Valette, à proximité du Fort Sainte-Anne, il ne serait pas improbable de les retrouver. En imagination, bien sûr. Un dernier détail à propos de ce tableau et de la position de Michelangelo Merisi dans l'ordre. La signature. La décollation de Saint-Jean-Baptiste est la seule œuvre qu'il n'ait jamais signée. Devant son nom inscrit dans le sang s'écoulant de la nuque tranchée du sein, il écrit un F, une lettre qui correspond au fra de frère au sens religieux d'un ordre. Nous pouvons sans crainte de nous tromper deviner la fierté de Fra Merisi après avoir réalisé une telle œuvre. Nous aurions pu croire que, fort de ce succès, il aurait poursuivi une double carrière, celle de peintre attaché au grand maître, au pluriel, et celle de chevalier aussi, au service des malades et à la défense de la religion, ce qu'il réalisa d'ailleurs à sa manière, grâce à sa peinture. Que l'on se souvienne des propos de Marc Fémaroli. Mais l'homme avait le don de se mettre dans des situations particulières. Les duels, les rixes, les bagarres, les chahuts même étaient son lot, non pas quotidien, mais fréquent. Ah, on a beaucoup glosé sur ce qui avait provoqué son exclusion de l'ordre. Laissons de côté ce que rapporte la légende noire. Après avoir fouillé dans les archives de la Bibliothèque nationale de Malte au début des années 1980, Philippe Farrugia-Randon, auteur d'un Caravage à Malte, a pu raconter ce qui s'était réellement passé. Dans la nuit du 18 août 1608, une bagarre éclata chez l'organiste de l'église conventuelle de Saint-Jean, Fra Prospero Coppini, entre sept chevaliers novices, tous d'origine italienne. On se donnait des coups de poing et un coup de feu fut tiré. La porte dentée fut brisée et un des sept antagonistes, Fra Giovanni Rondomonterrero, comte de la Vezza d'Asti, fut sérieusement blessé par le diacre Giovanni Pietro de Ponte. Ce dernier sera d'ailleurs privé d'habit puis réintégré deux ans plus tard. Après enquête de la commission criminelle, seul De Ponte et le Caravage furent identifiés et les deux hommes furent incarcérés au Fort Saint-Ange. Nous étions le 27 août, le jour même où l'on inaugurait sa décollation de Saint-Jean-de-Baptiste, qui était aussi celui où l'on commémorait la décapitation du Saint-Patron de l'Ordre. Et grâce au registre des différentes commissions, nous savons que le Caravage fut bien enfermé dans le Fort Saint-Ange, nous a dit Fra John Chrétien, le chevalier résident du fort, mais nous ne savons pas où. Philippe Farrugia-Randon a lui-même étudié les graffitis dans les oubliettes qui sont situées à l'entrée du fort et affirme ne pas avoir trouvé de traces de la présence de Caravage. Il est vrai, dit-il en se moquant, qu'il n'était pas sculpteur. Selon Fra John Chrétien, il est vraisemblable que le Caravage n'ait pas été enfermé dans une cellule avec les condamnés, car elle était seulement mise en examen, comme on le dit aujourd'hui, mais dans une sorte de cellule surveillée, pour ne pas dire résidence surveillée. Soudain, coup de tonnerre à la Valette, le vénérable conseil, autrement dit le gouvernement de l'ordre, apprenait le 6 octobre que le chevalier Fra Michelangelo Merisi da Caravaggio, détenu au Fort Saint-Ange, s'était échappé et avait secrètement quitté l'île. Cette phrase, nous l'avons lue dans les registres de la Bibliothèque nationale de Malte, sortit des réserves pour nous. Nous ne pouvons pas connaître le fondement de la pensée du Caravage. Nous serions même enclins à dire qu'il a commis une erreur, car enfin, une rixe. Il y en avait nombreuses à la Valette, où les jeunes chevaliers bouillants issus de tous les royaumes de l'Europe chrétienne se jaugeaient sans cesse. Qu'aurait-il risqué? Quelques mois de prison dans des conditions particulières tout au plus? On laisse entendre que ce serait le grand maître Vignacourt qui, lassé des attitudes du bouillon Fra Michelangelo, aurait ordonné qu'on laissât la porte ouverte de sa cellule. Cela ne tient pas. Le grand maître tenait à son artiste, qui déjà avait contribué à sa propre gloire. La fuite de l'île, sans l'autorisation du grand maître, équivalait d'une part à laisser croire qu'il était coupable et surtout le faisait tomber sous le coup d'une règle des statuts de l'ordre qui punissait de la privation d'habit, autrement dit excluait de l'ordre tout chevalier qui quittait le convent sans autorisation. Deux mois après sa fuite, le 1er décembre 1608, le vénérable conseil prononça la radiation en tant qu'élément pourri et fétide, tanquam membrum putridum et fetidum, du chevalier Merisi. Cette sentence fut prononcée dans l'oratoire, de l'église conventuelle de Saint-Jean devant la décollation. Le Caravage n'aurait été officiellement chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Rhodes, dit de Malte, que durant un peu plus de 3 mois. À Malte, comme le rappelle Calciberas, il trouva refuge, honneur et gloire, mais aussi l'emprisonnement et la disgrâce.